Do you want to be a fighter?
RMC.
Here comes in a way. That destructive power does it again.
Fighters Club.
The baddest motherfucker on the planet.
Hey, je vous invite à quoi?
Alexandre Herbinet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 323e numéro du RMC Fighter Club. Un Fighter Club qui remonte dans le ring pour rendre un hommage plus que mérité à la légende George Foreman, ancien double champion du monde des poids lourds, décédé ces derniers jours à l'âge de 76 ans. Et pour cet hommage, avec moi cette semaine, mon partenaire habituel du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de pied-point et de boxe anglaise. Vous pouvez retrouver sa série Baba Versus sur YouTube et commentateur pour RMC Sport, notamment les One Friday Fights. Comment ça va mon Baba Diagne?
Salut Alex, salut tout le monde, ça va, on est content entre guillemets. Content de rendre hommage à une légende, même si c'est triste.
Il fallait le faire.
Au moins, on va avoir le privilège de le faire.
On avait vite échangé, on s'est dit c'est juste incontournable. Peu importe l'actualité qu'il y a autour, cette émission doit être consacrée à Monsieur Big George, George Foreman. Et on va pendant une heure, vous raconter toute sa carrière, qui était le combattant, mais qui était l'homme aussi, parce que c'est plus qu'intéressant et c'est un vrai personnage. Il a rejoint Muhammad Ali et Joe Frazier dans le ciel où ils pourront refaire le match de leur légendaire bataille. Décédé ces derniers jours à 76 ans, George Foreman laisse un grand vide et des souvenirs pour la vie dans le cœur des fans de boxe. Deux fois champion du monde des lourds, avec plus de 20 ans d'écart entre les deux sacres, pasteur, businessman, commentateur, auteur, acteur, Big George était un personnage plus grand que la vie qui a su se réinventer plus d'une fois dans un destin digne d'un scénario de film, avec une place à jamais réservée dans l'histoire de la boxe et même du sport tout court. Le RMC Fighter Club rend hommage à Monsieur George Foreman. Repose en paix, les gens.
Sur le ring, on l'appelait Big George. Boxeur poids lourd hors norme, George Foreman s'est bâti à la force de ses poings un palmarès exceptionnel.
It is over! It is over! It is over in the second round. George Foreman is the heavyweight champion of the world.
C'était une légende, c'était un grand gaillard, très costaud, très physique. On se rappelle de ce combat qui s'est passé à Kinshasa entre Muhammad Ali et George Foreman.
He's got a minute and 8 seconds left.
Oh, and that's it. And I don't think this fight's over. George Foreman blows away Jerry Cooney.
George Foreman refermera sa carrière avec un impressionnant total de 76 victoires, dont 68 par KO.
Et merci à Flavien Ziolkowski pour cette petite prod qui nous rappelait la carrière de Big George. Baba, à quoi on mesure qu'un homme est une légende? C'est les réactions quand il décède pour le coup. Et je pense que tu as vu passer comme moi, unanime, que ce soit du monde de la boxe et même à l'extérieur, le nombre d'hommages qui lui étaient rendus. Des journalistes de boxe, je pense à Albert Stein qui disait qu'il était invité aux États-Unis dans 6 ou 7 shows la même matinée pour parler de George Foreman. C'est plus qu'une légende qui nous a quittés ces derniers jours-là.
Ouais, vraiment, c'était le Big Three en fait, des poids lourds de cette période-là, de cette époque-là, avec Ali et Frazier. Donc c'était le dernier qui était encore en vie. Et il a dépassé le sport lui aussi, comme les deux autres. Il est vraiment rentré dans l'imaginaire collectif. Et lui, encore plus, il est rentré dans les cœurs, il est rentré dans les foyers parce qu'il a eu 3 carrières différentes de boxe, mais aussi en dehors de la boxe. Donc ouais, c'est normal. Ces hommages, ils sont mérités parce que c'était un immense personnage.
Je crois que t'as des gens qui sont même pas fans de boxe, qui ont un grill George Foreman chez eux, qui savent pas qu'il y a du George Foreman chez eux, tu vois.
Il y a des jeunes qui savent pas ce que c'est, enfin ils pensent que les Jordan c'est juste des baskets.
Exactement.
On est vieux, Alex.
Ça peut arriver. Tu l'as dit, hein, c'est les 3 grands poids lourds de la plus grande période de l'histoire des lourds qui se sont en plus tous affrontés entre eux. Cette photo qui est mythique, Champions Forever, plus tard dans leur vie, où ils sont tous les 3 ensemble alors qu'ils ont arrêté leur carrière, c'est un mythe éternel. J'ai noté une petite phrase là-dessus, c'est quand Ali est mort, George Foreman, il parlait à Thomas Hauser, un des grands journalistes boxe des dernières années, et il lui disait c'est comme si une partie de moi venait de mourir. Ouais. Et je me disais, le jour de sa mort, c'est un peu pareil pour tous les fans de boxe en fait, avec le décès de Foreman.
Bien sûr, on l'a tellement regardé, il est partie prépondérante, même si, hein, évidemment, et on y reviendra tout au long de cet épisode, il faut vraiment pas. L'attacher qu'à cet épisode de sa vie, le combat contre Ali, mais il y a tellement de matériel documentaire qu'on a pu consulter entre le combat, entre le film autour, One Year Kings et compagnie, que ouais, je peux comprendre ce qu'il dit, et puis pour nous c'est la même chose en fait, tu vois, donc ça fait... Elle fait mal un peu ça.
Ouais, elle fait très mal, je suis assez d'accord. Frazier était parti en 2011, Muhammad Ali en 2016, et donc maintenant autour de George Foreman en 2025. J'en profite rapidement avant qu'on rentre nous dans notre hommage à vous conseiller, si vous ne l'avez jamais écouté, à aller écouter le podcast de Culture Box, Big is Beautiful, de notre ami Nicolas Zeisler. C'est un masterclass absolu,
20 sur 20,
voilà, pour savoir qui était le boxeur mais qui était l'homme surtout, et son évolution. Donc allez-y tous,
c'est un super
foncez
podcast. De toute façon en général c'est un super podcast,
oui, de toute façon
tous les sujets, tous les boxeurs à bord. abordés, il y a vraiment des pépites, et puis celui-ci c'est un de mes épisodes préférés.
Ouais, je suis d'accord avec toi, donc n'hésitez pas, vous tapez Culture Box George Foreman sur Google et vous le trouverez assez vite, et puis après tapez-vous les autres épisodes, ils méritent aussi comme disait Baba pour le coup, c'est une des histoires les plus folles, pas seulement de la boxe mais du sport en général qu'on va raconter Baba, et pour finir sur ça, mais on a perdu le même jour, les gens des fois ça part en groupe, on a perdu l'ancien champion du monde des poids légers WBA, Livingston Brandbull, et un célèbre journaliste boxe britannique, Colin Hart. Donc c'était un jour triste, le 22 mars, pour la boxe. Exactement. De façon générale. Baba, avant qu'on rentre, on va remonter son fil de son histoire, comme ça on va pouvoir s'amuser à parler de la vie et de l'œuvre de George Foreman. Mais je voulais commencer avec une question au coach. C'était quoi le style George Foreman dans un ring? Pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas trop vu boxer, parce que je me suis rendu compte aussi ces derniers jours, beaucoup d'hommages de gens qui l'ont beaucoup connu, et j'ai vu les messages de la nouvelle génération. Rest in peace légende, mais je ne l'ai jamais vraiment vu combattre, je ne sais pas vraiment qui c'est, je connais le personnage mais sans plus. Donc tu peux nous raconter Foreman dans un ring, peut-être d'ailleurs première et deuxième période.
Exactement, c'est ce que j'allais dire, il a eu deux styles parce qu'il a eu deux périodes en fait Foreman. La première partie de sa carrière, c'était juste un combattant terrifiant en fait, physiquement extrêmement fort.
Un des punchers les plus effrayants de l'histoire, large.
Ouais, très large. Mmh. Ring Magazine l'a classé 11e, si je dis pas de bêtises, des punchers. Non, 11e, c'était l'épisode qu'on a fait hier. C'était Jerry Robinson. Je crois qu'il même qu'il est devant.
Foreman. On se perd entre nos hommages aux anciens, Baba.
Foreman est même devant ça, il doit être 8e, je crois. Donc c'était un puncher aussi totalement terrifiant, mais c'était un vrai pressure fighter, comme on dit. Donc il savait mettre la pression comme il le fallait. Et puis il fallait pas se faire toucher, tout simplement. Quoi. S'il te touchait, c'était terminé. Il savait travailler derrière son jab, donc c'était pas juste décrocher large, même si Ali l'a forcé à le faire, mais il savait travailler derrière son jab et il savait très bien masquer ses attaques. En deuxième partie, il a changé sa défense dans un premier temps. Il a choisi de défendre en croix, comme le faisait Ken Norton à l'époque. Et puis, comme il savait qu'il était moins mobile...
Ouais, c'est ça, plus lourd, il est revenu, il était beaucoup plus lourd.
Moins mobile, il s'est complètement relâché. Mm. Et donc, il était très 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 relâché, en témoigne son KO, pour moi, le plus iconique, l'uppercut.
Le Kunai, on va en parler, et on va en parler quand
c'est
on va remonter.
C'est de relâchement, tu vois.
Il n'y a pas plus casual dans l'histoire de la boxe, j'arrive, je te mets KO, tranquille.
Et donc là, il était vraiment, vraiment très différent, très relâché, avec moins de mouvements parasites et beaucoup plus d'efficacité.
Ouais, et d'ailleurs, c'est ce que je trouve dans sa deuxième partie de carrière, il fatigue moins vite. Ouais. On en parlera dans le combat contre Ali, qui est une partie des raisons aussi de la défaite. Et tu sens qu'il l'avait dit lui-même, il était moins nerveux en fait, beaucoup plus relâché. Il avait une vision de la boxe aussi, on va en parler, mais transformation de l'homme avec aussi sa rencontre avec Dieu et tout ça qui en fait qu'il était beaucoup plus relâché et qu'en fait ça lui permettait aussi de tenir beaucoup plus longtemps sur la distance par rapport au Foreman jeune, très nerveux, très destructeur, mais qui finalement grillait beaucoup d'énergie assez vite dans ses combats.
Ouais, ça raconte une histoire de ce qu'il avait au début de sa carrière, enfin de sa première partie de carrière en tout cas, même s'il est devenu champion du monde et qu'il a fait des combats exceptionnels, il y avait quelque chose en lui qui n'allait pas, et donc ça lui cramait beaucoup d'énergie dans ses combats, il avait besoin de finir vite, sinon ça devenait compliqué, même s'il a fait des combats qui allaient jusqu'au bout, évidemment, mais il a découvert ça pendant sa longue pause de 10 ans, et ça lui a permis de revenir avec un style différent et d'être un meilleur boxeur que ce qu'il était au début. Ouais, mais c'est débattable.
Exactement, mais oui, ça a été un changement qui est évident quand on le voit dans le style, dans l'être humain, ce côté menaçant en fait. Il jouait vraiment le rôle en début de carrière du champion du monde des lourds menaçant. L'image qu'on a un peu, le cliché qu'on aurait du champion du monde poids lourd, le baddest man on the planet.
Exactement.
Et le deuxième, il y avait un côté presque nounours, et je le dis très gentiment et avec plein de respect dans la voix, mais nounours gentil,
C'était ça,
mais méchant quand il te tapait.
Voilà, quand il te tapait, il méchant, mais c'est sa vraie personnalité. Il avait expliqué dans une des nombreuses vidéos qui, de toute façon, donné plein d'interviews en format, donc je vous invite à les regarder.
Oh oui, si vous avez
dans
de la matière.
Une de celles-ci, il expliquait que dans sa première partie de carrière, quand il devient champion, en fait, il avait été sparring partner de Sonny Liston et il l'avait tellement terrifié qu'il voulait émuler la même chose en fait. Il voulait que tout le monde le voit comme voyait Sonny Liston. Donc il avait cette attitude assez méchante, mais qui n'était pas lui en fait.
Ouais, c'est un sparring quand il est encore amateur, ça. Ouais. Sparring avec Liston, ouais, où il prend beaucoup de leçons ce jour-là. Alors rapidement sur le déroulé de la carrière, c'est que j'en parlais là, premier combat amateur en janvier 67, il commence la boxe sur le tard, vraiment George Foreman. Il champion olympique à Mexico en 68. Il n'y a que 22 victoires, 4 défaites en amateur, donc c'est une carrière très courte,
très courte
mais brillante, puisqu'on a un titre olympique. Tu le disais, c'est marrant, c'est pas beaucoup. C'est des choses que des gens ne notaient pas trop là dans les hommes. Enfin, tu vois, on parlait plus de la défaite contre Ali que du fait qu'il est quand même champion olympique des lourds.
C'est un champion olympique, comme ses contemporains qui ont été au sommet. Et en plus, il a fait ça bien, puisqu'il n'y a qu'une seule victoire par décision, le reste c'est par KO.
Ouais.
Et en amateur, c'est notable quand même. Donc c'est une carrière ultra efficace, quoi. Seulement, même pas 30 combats.
Mais t'as raison, c'est les mecs qui détruisaient aussi chez les amateurs, ce qui montre le pouvoir de destruction. On est bien d'accord. Passage en professionnel, c'est en 69, au Madison Square Garden, avec un KO au round 3 sur Donald Wallheim. De toute façon, le début de carrière, Baba, il est absolument incroyable. D'ailleurs, venir globalement pour vous résumer sa carrière pro sur deux périodes dont on va parler, 76 victoires, 5 défaites, 68 KO. La liste, juste comme ça, et après on développe des noms qu'il a affrontés dans sa carrière. Mohamed Ali, Joe Frazier deux fois, Evander Holyfield, Ken Norton, Ron Lyle, Bert Cooper, Dwight Muhammad Kawhi, Jerry Kone, George Chuvalo, Michael Moorer, Tommy Morrison, Shannon Briggs.
Ouais, que des noms exceptionnels, des légendes. Il y a des noms peut-être qui vont moins vous parler dans la liste. Par exemple, un Ron Lyle qui est un combattant exceptionnel.
Et voilà le combat.
Voilà. Dwight Muhammad Kawhi, même s'il montait de catégorie, parce que c'était un light heavyweight qui était exceptionnel, c'était un peu plus dur en poids lourd.
Ancien champion du monde en light heavy.
Ouais, exactement. Mais il était tellement compliqué à boxer, ce gars. Donc, il y a des noms dedans qui sont moins connus que les autres, mais il a combattu vraiment que des légendes de la boxe.
Alors, le quatrième combat pro pour le petit clin d'œil, parce qu'on en a parlé dans le Fighter Club Legends, Baba, quand on a fait l'arc Mohamed Ali, il affronte Chuck Wepner, future inspiration de la saga Rocky face à, après son combat face à Ali. En un peu plus de 3 ans, de ses débuts pro à octobre 72, c'est 37-0, 34 KO, 22 KO au premier ou au deuxième round. Il y a quand même un côté absolument destructeur de ce début de carrière. C'était une machine inarrêtable.
Ouais, c'est ça en fait. Il a créé sa réputation comme ça en descendant tout le monde assez rapidement. Et puis je pense que les gars, ils montaient dans le ring presque déjà vaincus. Tu vois, il y a peut-être il y a que Ali et Frazier, je pense, qui sont montés en se disant qu'ils allaient gagner. Pour le reste, quand tu vois ce qu'il a fait, ouais, c'est clair que tu peux que avoir peur. Hein. Franchement, c'est des boxeurs, certes, c'est des athlètes, mais quant à cette montagne-là qui arrive en face de toi et que tu sais que dès qu'il va te toucher, tu vas tomber, c'est compliqué.
Ah, tu vois, mais pour les générations un peu plus tard, le mythe de la bête mythique dans la boxe, c'est Tyson. C'est Tyson, milieu des années 80 jusqu'à fin des années 80, qui défonce tout le monde sur son passage. Ce début de carrière, il y a un côté comme ça, en fait. Il y a un côté bête mythique, hein, comme l'a eu Frazier aussi avant lui. Tu es face à lui, tu tombes, et souvent dans les deux premiers rounds. Ça dure pas très très longtemps. À partir de 32-0, il est déjà challenger numéro 1 WBA, WBC. Il y a encore quelques petits combats et on va arriver à sa première chance pour le titre, 22 janvier 73. Il reste à ce moment-là sur 8 KO au round 1, au round 2, sur ses 9 derniers combats.
C'est fort.
Ce qu'on appelle un challenger légitime, Baba. Il n'y a pas de « tiens, lui, il a pris la place » ou « il a… » Non. Ouais. Là, on est sur du challenger très légitime. Et on est le 22 janvier 73 à Kingston, en Jamaïque. Et ça va affronter Joe Frazier. Et on va vous faire écouter, parce que c'est obligatoire, le commentaire mythique de Ward Cosell pendant ce combat-là. On est à Kingston, en Jamaïque, et il va se passer ça.
I think he hurt Joe Frazier. I think Joe is hurt. Angie Dundee, Ali's trainer right next to me, is saying it. You may hear him. Down goes Frazier! Down goes Frazier! Down goes Frazier! Frazier is dazed. He is getting hit again and again and again. Foreman is all over Joe Frazier. Frazier is down again, and he may be. No, he is rising. He is game. About to end. Two knockdowns in the first round of Joe Frazier. Down again. No saving by the bell. Frazier's knees buckled. He is down. He is down for the fourth time in the fight. Another. Frazier is down for the fifth time in this fight. It is over. It is over. It is over in the second round. George Foreman is the heavyweight champion of the world.
Baba, est-ce qu'il y a plus mythique en commentaire de boxe que Down Goes Frazier?
Frisson, vraiment, ça donne des frissons de l'écouter à chaque fois. Et en plus, pour moi, c'est particulier parce que quand on lance au bord du ring, Lucas Bourdon et moi, on avait un générique, on n'en a plus depuis quelques temps, c'est vrai.
C'est vrai en plus.
Mais notre générique,
votre époque générique.
Notre générique, c'était ça.
Oui, tout à fait.
C'était cette phrase-là.
Ah, tu viens de me ramener un peu dans le passé avec ça, mais oui, t'as raison.
Donc c'est vraiment pour moi quelque chose d'exceptionnel et qui me redonne des frissons à chaque fois que je l'entends.
Flavien dans les oreilles nous disait, c'était mieux, les commentaires, le grain, il y avait un côté un peu mieux avant. Il y avait quelque chose. Je disais Ward Cosell parce qu'il faut citer, enfin, c'est des noms absolument mythiques du commentaire en boxe. Baba, ça dure 2 rounds. Même pas en fait, ça s'est arrêté dans le deuxième round. Il y a 6 knockdowns, on les a à peu près tous entendus là, dans la prod préparée par Flavien. C'est une des plus grosses raclées de l'histoire de la boxe. En fait, dans le contexte, challenger face au champion invaincu, Frazier est invaincu. Il a battu Ali.
Il vient de battre Ali.
Il a battu Ali.
C'est le meilleur Frazier possible.
C'est le combat, tu vois, c'est la plus grande raclée dans une situation comme ça pour un titre, surtout chez le poids lourd, de l'histoire de la boxe.
C'est probablement, en tout cas c'est top 3 et il faudrait me donner les autres noms, mais clairement oui.
Poids lourd, j'ai Tyson Berbick en 86, où Tyson est le challenger, il arrive destruction absolue, mais qui est très, qui je pense est plus attendu.
Ouais, probablement.
Que Foreman détruisant Frazier à ce niveau-là.
Et puis, avec tout le respect que j'ai pour Berbick, je ne crois pas qu'il
voilà,
était au niveau de Geoffrey.
On est d'accord.
Donc, très clairement.
Vu l'adversaire, le compte.
Pour moi, non seulement c'est le plus gros tabassage qu'on ait vu d'un challenger sur un champion, ou un des plus gros, et puis surtout, pour moi, c'est. Je peux te faire un classement, mais c'est une des victoires les plus importantes de l'histoire de la boxe. Ouais. Une des plus grandes victoires en fait, de l'histoire de la boxe, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui peuvent se targuer d'avoir une meilleure victoire que George Foreman ce jour-là. En fait. C'est vraiment un truc de fou ce qu'il a fait.
Ah, je suis d'accord. On va, à la fin de cet épisode, on parlera de sa place un peu dans l'histoire aussi des poids lourds. C'est des mecs, on peut légitimement les mecs top 5 de l'histoire des poids lourds.
Oui.
Les deux.
Bien sûr.
Donc, en effet, c'est ultra rare d'avoir une carrière. Quand ton premier championnat du monde, c'est un mec qui, au final, est dans le top 5 de l'histoire de ta KT. Pareil, je ne me suis pas tapé l'ensemble des 17 KT de boxe, enfin, même des 8 originales, on peut faire. Mais c'est rare.
Ouais, c'est très rare.
C'est ultra rare, en fait.
C'est très rare. Ce qui s'est passé vraiment, c'est un moment d'histoire. Il a écrit ce jour-là, et c'est pour ça que c'est important de bien en reparler, de mettre de l'emphase dessus. C'est un exploit. Non, ce n'est pas un exploit, c'est une victoire monumentale, en tout cas.
On n'était pas nés, Baba, non. Mais tu crois quoi ? Il l'a sous-estimé un peu, Frazier, ce soir-là ? Ou l'autre était juste bien au-dessus, en fait, ce jour-là, à Kingston ? Ouais.
C'est dur à dire, mais je pense que tout le monde... déjà, il était underdog, il n'était pas favori dans ce combat-là, ça c'est la première chose.
Après, je me dis, il est dur à sous-estimer quand même, parce que vu les chiffres qu'on vient de dire, tu vois, voilà. Son début de carrière,
je pense que...
Frazier devait...
Ouais.
C'est à mon avis, c'est sûr.
C'était un besogneux.
Tu vois.
Son travail en préparation.
Il n'était pas là en mode c'est une journée de plus au bureau, je vais l'éclater.
Exactement. Je pense qu'il est venu bien préparé, mais je pense qu'il y avait le monde de la boxe qui ne s'attendait pas à ça. Parce que tout le monde n'attendait que la revanche entre Ali et Frazier, clairement. Le monde n'attendait que ça. Personne n'attendait autre chose. Et Ali, il switch en fait. Et finalement, quand il voit Foreman gagner, il se dit ok, je vais devoir affronter Foreman.
Mon nouveau méchant, c'est lui.
Voilà.
Enfin, méchant entre guillemets.
Plutôt que d'affronter Frazier, il a affronté Foreman avec la suite qu'on connaît.
Finalement, ça permet d'avoir donné et le Rumble in the Jungle complètement mythique. Et de toute façon, la trilogie Ali Frazier. Donc
exactement.
Tu vois, cette victoire-là aussi, dans les scénarios d'après, elle a bien construit l'histoire. Ouais. Elle a même très, très bien construit l'histoire. Une des plus grosses victoires, tu le disais, de l'histoire de la boxe, tout simplement.
Ouais.
Voilà, c'est un absolument mythique ce qui s'est passé là. Sidan en moins de 2 rounds.
C'est
revoir les images, ça faisait longtemps que je ne les avais pas vues quand même, quand il y a eu le décès. Je l'ai partagé sur les réseaux, tout le monde l'a partagé. On dirait un pantin, quoi.
Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable.
Chaque fois qu'il se relève, il prend des coups et t'attends juste le moment où il va retomber, quoi.
Il retourne. Et il est résistant. Il est résistant et résilient, Frazier, parce que déjà, avant le premier down, il en prend des belles. Et le premier knockdown, le percut du bras arrière, là, qui arrive plein pot, je sais même pas comment il se relève déjà.
Et on l'entend, Howard Cosell, le commentaire qui dit qu'il y a Dundee, le coach d'Ali en bord de ring, il y a aussi Ferdy Pacheco, le physicien d'Ali. Ils sont tous en train de demander, de dire arrête à l'arbitre, arrête.
Bien sûr.
Il est en train de se faire massacrer, le gars. Ouais. Quoi. Donc il faut arrêter ce massacre. Absolument mythique, ce Frazier Foreman 1. Allez le voir si vous n'avez pas vu les images, pour voir les images qui accompagnent ce commentaire. Absolument mythique de Cosell. Derrière, il y a deux défenses de titre, en moins de 2 rounds, comme d'habitude. Hein, José Roman et Ken Norton, super combat aussi contre Ken Norton. Norton, futur champion Norton,
qui a très
battu Ali avant, qui a été aussi battu dans la revanche par Ali, mais combat très compliqué pour Foreman.
Norton, c'est un combat compliqué pour tout le monde. Il avait fracturé la mâchoire d'Ali dans le premier combat où il le bat. Dans la revanche, c'est décision partagée et c'est controversé. Il y a pas mal de gens qui pensent que Norton a gagné le deuxième combat aussi. Et le combat contre Foreman, il est tout aussi disputé. Ouais. C'est un sacré champion, Norton. Ici.
On arrive à octobre 74, Kinshasa, le Rumble in the Jungle, t'en parlais. Alors, on l'a noté ça, je sais que tous les deux, Lucas, que t'as cité tout à l'heure, le notait aussi. En effet, il y en a beaucoup. Ce qui m'a frappé, c'est l'AFP. C'est quand même l'agence France-Presse, et que dont la dépêche, enfin, pas la dépêche en soi, mais le tweet d'annonce de la mort, note uniquement, en fait, qu'il a perdu contre Ali à Kinshasa.
C'est quand même regrettable.
Voilà, donc on l'a dit, il y a des titres à 20 ans d'écart, il y a une médaille d'or olympique, il y avait peut-être d'autres choses à noter clairement que la défaite, même si c'est la plus légendaire de l'histoire de la boxe.
Il n'y a pas de problème, on peut en parler dans un article.
Mais est-ce qu'on, dans un sens, on ne comprend pas aussi quand même ?
Bien sûr.
C'est tellement mythique, on vous l'a fait vivre dans le Fighter Club Legend, pour ceux qui ont accès, les abonnés, allez le revoir en replay appli RMC Sport. C'est tellement mythique en fait.
C'est compréhensible c'est compréhensible. Si tu veux toucher le grand public, si tu veux le grand public faire comprendre qui est décédé, tu veux faire vite, tu vas parler du combat contre Ali.
Ouais.
On est d'accord. Maintenant,
en fait, ça va parler à tout le monde.
Maintenant, voilà, ça me laisse quand même
Y a un petit goût amer.
Un peu perplexe, parce qu'il a fait plein d'autres choses et tu pouvais dire le plus vieux champion du monde des poids lourds de l'histoire. Enfin, il y a plein de choses à dire. Et puis après, dans ton article, tu peux écrire autre chose. Maintenant, si on vit à une ère de mots-clés, Et j'entends ouais, qu'il faut mettre les, il faille mettre les mots-clés dans ces phrases-là pour comprendre de qui on parle.
Mais en fait, c'est tellement mythique que t'as raison. C'est-à-dire que c'est le truc où tout le monde va dire « Ok, je sais qui c'est ».
Ouais, voilà, c'est ça. Tout
je
de suite,
connais ce combat. Ouais. Même si je ne l'ai pas vu, j'ai vu des documentaires, j'ai vu des trucs. Enfin, c'est tellement dans la culture populaire globale, le Rumble in the Jungle, que tu sais qui c'est.
Ouais,
c'est
voilà.
Le mec qui a été battu par Ali à Kinshasa.
Et puis,
même si tu vois, même si t'as zéro connaissance de format,
ouais, bien
ça
tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. C'est un truc de la culture. C'est un combat de la culture qui a largement dépassé la boxe, qui a largement dépassé le sport. C'est dans la culture. Et juste pour, puisqu'on parle de presse et d'articles de presse, un petit big up à mon amie Nadia Bouchny qui a écrit un article pour TV5 Monde qui s'appelle tout simplement et sobrement qui est George Foreman. Tu cliques et puis comme ça tu peux comprendre.
Et tu apprends tout ça derrière. Mais c'est exactement ce qu'on veut. Le Rumble in the Jungle, vous avez aussi dans le RMC Fighter Club, avait proposé à l'époque sous la plume de l'excellent Pierre Amiche, ouais. Une série en 3 épisodes sur le Rumble in the Jungle, un podcast audio. Allez-y, vous le retrouvez aussi facilement ouais, en tapant ça sur les moteurs de recherche et c'est juste un petit bonbon. Qu'est-ce que tu retiens de cet épisode pour finir sur Rumble in the Jungle Baba, qu'est-ce que tu retiens côté Foreman? Qu'est-ce qu'on retiendrait de ce combat ?
Côté Foreman, je pense que moi, je retiens qu'il s'est fait quand même pas mal piégé par l'enjeu et pas mal piégé par l'organisation de cet événement. On va dire qu'il y a beaucoup de choses qui étaient faites pour que ça tourne en faveur de Mohamed Ali. Après, il fallait gagner sur le ring, c'est pas tout. Il fallait quand même gagner et ça n'enlève rien au combat en lui-même d'Ali. Maintenant, c'est vrai que dans ce qui s'est passé quand il était au Zaïre, autour de lui, le fait qu'on lui prête... le fait qu'il soit moins noir qu'Ali ou moins dans la communauté, etc.
Et Ali était tellement showman qu'il s'est mis tout le monde avec lui.
Voilà.
Il a ce narratif, il l'a installé. Et derrière, en effet, le format n'était quand même pas dans les meilleures conditions.
Ça a pris plusieurs décennies, ou en tout cas au moins une bonne décennie, à faire comprendre à quel point George Foreman est une personne, une très bonne personne, une personne admirable. Et pendant longtemps, dans l'imaginaire des gens, c'est resté le méchant. Et puis moi, étant jeune fan de boxe, qui découvre le combat, bah pour moi, c'est le méchant du film et je suis content que le gentil ait
gagné.
Gagne
à la fin,
il a fallu que je vieillisse, que je fasse mes recherches, que je regarde des combats pour comprendre que non, c'est un excellent boxeur, une super personne.
On l'a dit déjà ici, on peut critiquer Ali là-dessus.
Oui,
parce qu'il a été beaucoup trop loin et que ça dépassait des limites, comme il l'a fait contre Frazier d'ailleurs. C'est des côtés que Ali avait en lui. Mais en fait, il a écrit aussi une histoire. Je trouve qu'avec tout ça, ça magnifie l'histoire de Foreman. Ça magnifie la transformation dont on va parler sur le deuxième arc de la carrière, tu vois. Parce qu'il a été vu comme le méchant et qu'il va finir par être vu, je le disais tout à l'heure, presque le nounours, le nounours gentil. Mais je trouve que ça renforce le truc.
Bien sûr.
C'est horrible de la part d'Ali, mais ça, putain, la mystique, la légende.
Voilà, en fait, quand tu le regardes du point de vue légende, quand tu as un œil presque cinématographique sur l'histoire, tu te dis génial, c'est mieux que ce soit passé comme ça, oui, effectivement. Maintenant, c'est vrai que, oui, quand tu es dedans et que tu comprends les choses, tu te dis qu'il a dû passer par des moments assez sombres à cette période-là parce que tu as perdu de façon assez spectaculaire, pour certains ridicules. En tout cas, c'est comme ça que ça a été décrit pour beaucoup. Et puis derrière, il faut remonter la pente. Il fait d'autres combats super importants.
Ouais.
Je recite le combat contre Online, notamment.
C'est juste derrière.
mais c'est presque passé inaperçu, tu vois. Et il prend sa retraite quasiment dans l'anonymat. Ouais. Là, il se retire, ok, cool, quoi.
Ouais, exactement. C'est alors que voilà, il participait au plus grand combat de l'histoire, mais il est sur le combat en lui-même. Et on finit là-dessus.
Ouais.
Je disais, avant ce combat-là. Donc on est à 3 combats après Frazier. Il reste donc sur 11 KO, round 1 ou round 2, sur ses 12 derniers combats.
Ouais.
Est-ce que Ali, juste pour résumer grosso merdo le combat que vous pouvez retrouver dans notre Fighter Club Legends, c'est juste qu'il est malin et qu'à un moment tu le poussais en fait à plus de 6-7 rounds, il n'était pas prêt pour ça.
Ali, il a été très intelligent et puis surtout, il a lié son intelligence à ses capacités physiques. Il n'y a que lui qui croyait qu'il était capable de résister à ça.
Ses capacités techniques.
Exactement. Ouais. Et puis, il a été malin, intelligent et le piège s'est refermé sur Foreman dans le ring. Et là, par contre, il n'y a rien à dire. C'est un combat, c'est du sport. Et il y en a un qui a été plus fort que l'autre dans la tête et en plus, dans l'exécution du plan, c'était parfait.
Alors qu'il n'était pas le plus attendu puisqu'il n'était pas le favori. Sans toutes ces histoires, on l'a eu, Foreman contre Frazier, là, il contre... C'était souvent pas les favoris et c'est ce qui rend aussi la mystique de cette période-là parce qu'il y avait des choses inattendues. C'est la seule défaite par KO de la carrière de George Foreman chez les pros, malgré cette carrière qui a fait plus de 28 ans, je crois, sur la longueur.
Ouais.
Juste après, il y a encore du combat et de la victoire mythique, puisque tu le disais, c'est Ron Lyle juste après, c'est le 24 janvier 1976. C'est une guerre, mais incroyable, Baba.
Incroyable.
Moi, je disais, c'est sans doute parce que c'est pas un des combats les plus connus de l'histoire des lois. Si tu prends le grand public, tu vois, c'est pas un combat que les gens vont te citer. Ron Lyle, c'était pas une des plus grandes stars. mais c'est une des pépites des poids lourds.
Mais c'est tout ce que les fans de boxe veulent en fait.
Ouais,
quand j'entends les gens parler de ce qu'ils veulent des combats de boxe et qu'ils n'aiment pas les combats de Mayweather ou ils n'aiment pas les combats tactiques comme ça, tout, c'est des poids lourds qui se rencontrent au milieu du ring et qui envoient parpaing sur parpaing, non-stop.
Mais comment ils tombent pas les mecs?
C'est exceptionnel, ce combat est exceptionnel. C'est pour ça qu'on
ils tombent pas plus tôt, puisque c'est un KO round 5.
Ça finit par tomber, mais c'est un combat exceptionnel. Vraiment, il faudrait d'ailleurs que je regarde à nouveau le contexte pour comprendre ce qui s'est passé, s'il y avait un contention entre les deux, parce que vraiment, ce qui s'envoie dans la tête, c'est incroyable.
Ouais, j'ai pas encore eu le temps, mais je me suis remis de côté, parce que il a été repartagé sur YouTube et tout, donc je me suis remis de côté pour aller se le mater bientôt, mais pareil, foncez, n'hésitez pas. Et derrière online, c'est le deuxième contre Frazier, un KO aussi au round 5 en juin 76.
Et pareil, très méconnu ce combat.
Donc c'est ça, mais c'est marrant parce que derrière Ali, tu as l'impression que cette petite période-là où il y a des super combats et encore un grand nom au palmarès, deux grands noms même au palmarès, elle est un peu oubliée.
Et en fait, vraiment,
ce
Rumble in the Jungle,
même ça, chez les fans de boxe, c'est un peu oublié.
C'est
cette
oublié.
Il y en a beaucoup qui disent, moi j'ai déjà entendu, après Ali, il prend sa retraite.
Ouais, c'est ça. Les gens ne savent pas ce qu'il a
c'est
fait
pas
après.
Tout de suite.
Et pour je pense que pour beaucoup de gens, il a fait qu'un seul combat contre Joe Frazier.
Ouais.
Alors qu'il y en a deux. Et qu'il le met KO deux fois. Mettre KO deux fois Joe Frazier, c'est encore une fois à mettre très très haut dans le classement des plus grands accomplissements de l'histoire de la boxe. Mettre KO deux fois un adversaire comme ça, c'est phénoménal. Ali, il a fait vie et mort contre Joe Frazier les deux fois d'après. Donc c'est pas comme si c'était aussi simple que ça.
Ah non, complètement pas. Non, mais puis c'est une période trop oubliée en fait de la carrière
de
Foreman, je pense.
Exactement. Donc, c'est encore une fois l'impact de ce combat qui a eu aux Zaïre. Ouais,
exactement. Ça a bouffé tout en fait.
Ouais.
Même derrière, en tout cas à court terme, ça a tout bouffé sur son parcours. Trois autres victoires avant une défaite inattendue. C'est face à Jimmy Young, qui sera battu par Ali pour les titres, c'était l'année d'avant, en 75 ou 76 je crois. On le reverra que 10 ans plus tard, on est en 77 Baba, mars 77, 10 ans. Alors il y a cet épisode mythique, puisqu'il dit dans le vestiaire, après cette défaite contre Jimmy Young, il a une expérience mystique, une expérience proche de la mort, ce que les Américains appellent near-death experience, qu'en gros il voit un endroit plein de vide, de désespoir, qui réclame l'aide de Dieu et que Dieu lui dit qu'il faut changer de vie, et donc il va complètement transformer sa vie, il devient born again Christian. Il met sa carrière entre parenthèses, il prend jamais sa retraite officiellement.
Non, jamais. Ouais.
Il n'y a pas d'annonce j'arrête de boxer, mais il y a un changement total de vie, il se dédie à Dieu, il devient pasteur à Houston, il ouvre un centre pour la jeunesse aussi dans le coin, il a prêché même dans la rue la bonne parole. C'est la transformation est complètement incroyable, ça rajoute une mystique au personnage, parce que tu peux croire ou pas à l'histoire du moment mystique dans le vestiaire, l'histoire est belle, quoi.
C'est pour ça
racontée comme ça, elle est superbe.
C'est incroyable, c'est une histoire hollywoodienne. Et moi, je me suis longtemps demandé, jusqu'à il y a peut-être deux ans, parce que le film sur Foreman est sorti à quoi, 2-3 ans maintenant.
Ouais, c'est assez.
Je me suis longtemps demandé, mais pourquoi ils n'ont pas fait un film sur ce mec? Juste, tu t'arrêtais là, c'était déjà un truc de fou.
Ouais.
Mais le film, il s'écrit tout seul jusqu'à la rédemption et ce qui s'est passé derrière. Donc, c'est une histoire incroyable. C'est une histoire incroyable. La vérité, c'est une histoire incroyable, comme je crois qu'il n'y a que l'Amérique qui est capable de
créer
une histoire comme ça, en fait.
Oui, il y a un truc comme ça. Et on va passer, et ça va être le deuxième arc de la carrière, puisqu'il va revenir donc 10 ans plus tard, en 1987, dans les rings. Mais en fait, cette rencontre à Dieu, elle est primordiale, parce qu'elle le change aussi.
Oui.
Change l'homme, tu le disais, le côté menaçant, intimidant tout à l'heure, qui devient affable. Le mec sympa, le mec plutôt joyeux, souriant, détendu. C'est aussi ça, en fait, son arc. C'est-à-dire qu'au-delà du... On va arriver là sur la deuxième carrière et donc le titre mondial 20 ans après. Je trouve que l'arc narratif de la seconde carrière de Foreman, c'est aussi l'homme.
Absolument.
Au-delà du boxeur, Baba.
Absolument. Et de toute façon, c'est l'homme qu'il est devenu derrière, ou en tout cas l'homme qu'il a réussi à se découvrir, parce que c'est probablement que cet homme-là, il a toujours été au fond de lui, quelque part.
Oui, sans doute. C'est le vrai Foreman qu'on voit en deuxième carrière.
Le vrai Foreman, ensuite, ça l'a aidé à faire ce qu'il a fait derrière. Déjà, c'est ce qu'il a fait au niveau social, c'est juste exceptionnel, parce qu'il est venu en aide à sa communauté, à des jeunes de sa communauté. C'est très important. Il a fait beaucoup de bien autour de lui. Il a donné une belle image aussi du rapport de l'homme à la religion, et donc qu'on peut de toute façon être sportif, qu'on peut faire beaucoup de choses dans la vie tout en gardant ce lien assez étroit avec Dieu et avec la spiritualité. Donc c'est une chose aussi très importante, je trouve. Et en fait, ça donne un exemple. Ça donne un exemple à suivre, en fait. Que même si tu peux avoir la plus cuisante des défaites devant le monde entier, et littéralement devant le monde entier, c'est pas la fin de toi, en fait. Tu vois, c'est pas la fin de toi. Et si t'arrêtais l'histoire à ça, je suis devenu cet homme-là, je fais ça, et puis bah, écoute, c'est parfait, c'est une histoire parfaite déjà.
Et c'est le moment aussi où va se développer l'amitié avec Ali, oui. qui va devenir très forte jusqu'à la fin de leur vie. Et tu vois qu'en fait, même malgré tout ce qu'Ali lui a fait vivre, le mec est tellement transformé qu'il a ouvert son cœur à beaucoup d'autres choses et qui permet de laisser Ali dans sa vie et de prendre du plaisir en fait, à partager avec lui. C'est, ça fout des frissons, vraiment. La vie de George Foreman, au-delà de la carrière, ça fout des frissons. C'est un truc incroyable. Ouais. Ça va aussi être l'époque des grilles. On va y venir très vite.
Ouais.
C'est 87, donc son retour, 38 ans. Ça fait son retour dans les rings. Il y a deux ambitions qui sont annoncées. Prendre de l'argent pour son centre pour la jeunesse,
ouais.
donc c'est toujours aider tu vois, sa transformation d'homme, et affronter Mike Tyson, le Mike Tyson, la bête mythique, comme on disait tout à l'heure, on est en 87, là on est en plein dedans, on est en plein dedans sur le mythe. Il reprend contre Steven Zuski, c'est en 9 mars 87, il est quand même, tu le disais tout à l'heure, Baba, quand il arrive, dès son premier combat de retour, il est beaucoup plus gros, t'as l'impression qu'il est hors de forme. Comment à l'époque, nous on est trop jeunes pour l'avoir vécu en live, mais comment on peut croire un instant que ce mec va redevenir champion du monde des poids lourds. Si un mec fait ça aujourd'hui, revient à un poids lourd après 10 ans, d'ailleurs Vladimir Klitschko a ouvert la porte dernièrement, disant qu'il voulait battre le record de Foreman.
Ouais.
Je pense que Klitschko est un mec qui s'est gardé un peu en shape. Enfin, tu vois, que s'il revenait demain, en tout cas sur la forme...
J'ai vu un reportage tout récent, ça va.
Tu vois,
ça a l'air d'aller.
Pas l'impression qu'il a gonflé comme une barrique, pour le coup. Mais si un poids lourd qui avait été champion du monde ou pas loin il y a 10 ans revenait complètement hors de forme, complètement gros aujourd'hui, on rigolerait, Baba.
Ouais, bien sûr.
On y croirait pas une seconde.
Tu dis que c'est Bozo et que de toute façon il a besoin d'argent. Il fait ça que pour le cachet parce qu'on est très rapide à juger à cette époque. Donc on dirait qu'il court le cachet tout simplement et puis voilà, il va affronter des bêtes de foire, il va se donner en spectacle, mais il pourra jamais sniffer la ceinture à moins d'un kilomètre. Surtout qu'on après une toute petite période de creux, on retourne sur une ère de poids lourd exceptionnelle. Avec des combattants exceptionnels, tout simplement.
Mais il s'est pas embêté, il est devenu champion du monde dans les deux ères des poids lourds les plus compliqués.
Exactement.
Quasiment. Même donc, pas quasiment, on peut l'enlever là.
Quand tu reviens, si tu vois à l'époque les noms qu'il y a et qui sont en train d'arriver, tu dis ouais, non, mais t'es gentil, mais oui, tiens-toi loin de ces gars-là parce qu'ils vont te tuer en fait.
Alors tu le disais tout à l'heure, ce format de deuxième arc, c'est moins de mobilité, clairement, par moins de combinaisons rapides. On est plus sur le coup qui fait mal, le coup très dur et qui va bien enfoncer le gars. C'est un boxeur totalement différent.
Alors, totalement, il y a quand même quelque chose de l'ancien Foreman, en termes évidemment de puissance de frappe, et toujours cette capacité aussi à être un métronome, à avancer constamment. Il a un rythme et il le garde en fait, Foreman, ça a toujours été ça. Sauf qu'il est, mais il est quand même fondamentalement différent.
Ouais, c'est ça, sur la base des fondations, je pense que c'est quand même le cas. En 4 ans après son retour, 24 victoires. 23 KO, on a l'impression que c'est le début de carrière, notamment, on le disait, mais Dwight Muhammad Kawhi, ancien champion chez les light heavyweight, Bert Cooper, et, parce qu'il fallait, t'en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais on va s'arrêter deux minutes, Baba, monsieur Gary Quinney, 15 janvier 1990, c'est le KO le plus cool de l'histoire de la boxe. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Donc il y a d'abord un down, il le met down, et quand l'arbitre fait repartir le combat, Foreman marche, mais de façon casual,
pour
vers lui. Voilà, il va acheter une baguette de pain. Il fait trois pas, il arrive vers lui, il déclenche l'uppercut du gauche, ça tombe. Mais c'est, en plus, tout est fait dans un même mouvement.
Avec une harmonie.
Et voilà, il a pas à s'arrêter une seconde
rien
dans son mouvement.
Ouais, c'est ouf, rien n'est forcé. Et puis en plus, il sait qu'il va le descendre. C'est la confiance qu'il dégage quand il quitte le coin, c'est assez incroyable. Tu regardes son attitude de marcher comme ça. Il savait déjà quel coup il allait faire. Il savait déjà que ça allait passer. Et puis derrière, un petit pivot, parce que ce monsieur a des fondamentaux de boxe parfaits. Un petit pivot pour terminer avec un cross. Et tu te dis, ce KO, moi, il me tue.
On n'a pas fait de recherche. On ne se l'est pas demandé avant l'émission. Mais il n'y a pas plus cool. Enfin, dans l'histoire de la boxe, en tout cas dans les grands noms et tout, parce que l'histoire de la boxe, il y a tellement de combats,
nous trouver des trucs, mais franchement,
à ce niveau-là,
l'attitude et tout, moi je suis désolé, mais moi, c'est mon coup de cœur ce KO-là.
Ah ouais, complètement.
Toujours.
Gary Quinney, c'est le 15 janvier 90, pareil, vous tapez sur les moteurs de recherche ou dans YouTube, vous trouverez ça, ça se fera assez rapidement. Et cette époque-là, on est 15 janvier 90 pour Quinney, donc c'est en 89, il faut quand même qu'on ouvre cette parenthèse-là, là-bas, les George Foreman Grill, donc c'est en 89 qu'il va... monter ce business-là, enfin vendre son nom pour ces grilles-là. Il est très malin, puisqu'au lieu de prendre un chèque et un cachet direct, il va prendre des royalties sur chaque grille qui est vendue. J'ai lu jusqu'à quasi 40% sur chaque grille, le premier deal qu'il faisait. Ça fera qu'il y a au pic de George Foreman Grill, il vendra 4 millions, il touchera 4,5 millions de dollars par mois.
Ouais, c'est dingue.
Pour la vente des grills. Quand il lui rachète l'utilisation du nom en 99, c'est 138 millions de dollars le chèque. En tout, il aurait pris plus de 200 millions avec ses grills. Bien plus qu'il n'en a pris dans le ring.
Bah absolument.
Puisque c'est le Ali à Kinshasa, c'est ouais. Les grandes bourses pour l'époque, mais on parle de quelques millions de dollars à peine. C'est bah, pas du tout notre époque d'aujourd'hui.
On peut me corriger, hein, mais je crois qu'Ali prenait 5 millions.
C'est ça, c'est les 5 promis par Don King. Donc, mais on est loin des 117 millions ou 114 pris par Usyk contre Fury 2 en Arabie Saoudite.
C'est encore un autre record pour un boxeur.
Mais c'est, ça rajoute tellement pareil à l'histoire du mec. Je veux dire, pour toute une génération, d'ailleurs, beaucoup pour la nôtre, hein. Les potes à nous, tu vois, de nos âges, mais qui ne sont pas fans de boxe plus que ça.
Oui.
George Foreman, c'est le mec des barbecues, baba.
Ouais, exactement.
C'est le mec des grills.
Pour beaucoup d'Américains, en tout cas, il est rentré dans tous les foyers américains ouais. Avec sa bonne bouille, avec son smile, avec son grill et avec son tablier. Et ouais, et pour beaucoup, c'est juste ce gars-là, en fait. C'est juste
et, gars-là. Et en fait, ça participe vachement de ce ouais. Deuxième arc. Pour l'homme.
Bah ça
aussi.
Ramène, bah oui, bien sûr. Et puis ça va ramener.
Cette transformation qu'on disait, bon bah t'es deviens, mais ouais, c'est le côté, je le répète, mais c'est le côté nounours quoi. Enfin, ouais. C'est le mec qui te vend des grills, qui te fait vendre ses barbecues avec son grand sourire, sa bonne bouille.
Voilà. Et en fait, plus, il sait boxer quoi.
Et t'as envie, je te jure, t'as envie, à l'époque, tu vois les pubs, t'as envie de faire un barbecue avec George Foreman en fait.
Ouais, clairement. Non, c'est clair que c'est quelque chose d'ultra populaire, faut s'en rendre compte. Moi j'ai été tout début des années 2000 à New York. Et c'est là-bas que je découvre. Moi, je savais même pas en fait qu'il vendait des barbecues, tu vois. Et pourtant, il le fait depuis pas mal d'années à cette époque. Mais à l'époque, je suis pas encore autant fan de boxe anglaise. Je suis encore très Muay Thai moi à ce moment-là. Et là, je découvre. On m'invite en fait pour manger les voisins là quand tu t'installes. Et en fait, je vois le truc. J'ai, il est vraiment pas mal ce barbecue.
Ah vas-y.
Mais tu connais pas. Et puis on m'insulte quoi.
Mais rentrons dedans. On en profite. C'est notre spécial Foreman. Moi, j'ai jamais utilisé le grill Foreman. Il est bien. Il a des trucs un peu particuliers. Il est.
Attention, on est avec mes potes et je sais qu'ils me regardent. On est des clients
je
de barbecue.
Vois, je
on
vois.
Est, on est des professionnels.
On est sur des choses où on ne rigole pas.
On rigole pas avec les barbecues avec mes potes et dans mon quartier où j'ai grandi. C'est très important pour nous et j'étais face à une Rolls Royce des barbecues ouais. J'ai dit, ah, c'est génial, c'est super, tu vois, pratique et tout, efficace, large comme il faut. Donc là je découvre qu'il a fait ça et puis c'est à partir de là je commence vraiment à m'intéresser à son histoire ouais.
Et businessman hein, parce qu'il y a tellement de sportifs ou autres d'ailleurs qui se sont fait avoir par ce genre de deal.
Ils auraient pris le chèque.
À prendre un chèque tout de suite, il y a un beau truc voilà. En plus à l'époque plus, un peu besoin d'argent puisqu'il revient dans le ring aussi pour alimenter notamment ouais. Son centre de jeunesse, enfin tu vois là ça aurait été légitime de prendre juste le gros chèque tout de suite. Non, non, on va en vendre des grilles et ouais. je vais prendre mon pourcentage à chaque fois, 4,5 millions par mois.
Exceptionnel, c'est une des plus grosses réussites commerciales d'un sportif.
C'est incroyable, même dans la boxe moderne, ouais. En fait, plein de boxeurs avec les bourses dont je parlais tout à l'heure ne feront jamais cet argent-là, oui. Loin
et
de là.
Puis c'est un risque à prendre, c'est-à-dire que tu vas avoir des Jordan qui ont eu les baskets, etc., ouais. Les basketteurs et compagnie, les footballeurs qui ont eu des énormes marques qui sont venues les sponsoriser, c'est très différent. Ça génère beaucoup d'argent, bien sûr, mais c'est des marques qui, sans ces athlètes-là déjà qui fonctionnaient très bien et tout le monde acheté. Là, on est un mec qui a dit je suis ok pour vendre mon image pour des barbecues. Et il a la vision de se dire non, faut pas que je prenne un chèque, c'est mieux que je prenne des royalties parce que ça peut marcher.
Ouais, vision.
C'est de l'intelligence.
C'est ça que je disais, businessman aussi dans ma.
Et puis, comme c'est un religieux et qu'il y a beaucoup de spiritualité là-dedans, il y a une phrase très religieuse, moi, qui me guide ma vie, je comprends, qui dit y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien ? Et t'as l'impression que cette personne-là, George Foreman, peut tellement il fait du bien autour de lui, bah, c'est sa récompense, quoi, tu vois.
Et des choses bien qui lui arrivent. Et en fait, quand il s'est transformé pour être un homme de bien, tout a découlé d'un.
Exactement.
La vie, c'est exactement la phrase que tu as dit. Tout a été dans le même c'est sens ça. Pour sa vie. Je parlais donc de ses 24 victoires dans 23 KO après son retour en 4 ans. Et ça le mène au 19 avril 91. Opportunité pour les titres de champion du monde. Il a 42 ans déjà. Mais WBA, WBC, IBF contre Evander Holyfield. Défaite par décision unanime. Mais pour le coup, un 7e round où il met à mal aussi. Ouais. Il met vraiment mal Holyfield. Il n'y a pas de round de l'année de The Ring à l'époque.
Non, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi.
Je pense que ça a été créé plus tard. Enfin, ouais. Tu vois, on est dans. Mais gros candidat.
Ouais.
Donc, il est. Parce qu'il est tout sauf favori. Et il est à la hauteur. Même s'il perd, il est à la hauteur quand même de ce défi.
Ouais, c'est ça. Ce qu'il y a autour de ce combat, c'est qu'on dit. On ne pensait pas qu'il performerait à ce niveau-là et qu'il tiendrait aussi longtemps parce que c'est le Holyfield au top de ses pouvoirs. Ouais. Et c'est dans les combattants terrifiants, Holyfield, il est très très haut lui aussi. Et il met à mal, hein, Foreman d'ailleurs, dans le combat. Mais Foreman tient et il arrive lui aussi à mettre Holyfield dans le dur. Donc c'est vraiment une performance où tu dis. ouais, en fait, certes, il est revenu parce qu'il avait besoin d'argent, mais c'est toujours un boxeur exceptionnel, il est capable de performer, ouais. Donc, là, je pense que l'opinion a peut-être un petit peu tourné à ce moment-là.
Ouais. Ouais, complètement. Il aura une nouvelle opportunité 2 ans plus tard, en juin 93, à 44 ans, c'est contre le Duke, Tommy Morrison, bien connu de ceux qui connaissent la saga Rocky, pour le coup. Défaite, décision unanime, avec un Morrison intelligent, qui, plutôt que de partir à la bagarre avec Foreman, l'outbox à distance pendant 12 rounds.
Ouais, il a compris.
À ce moment-là, on se dit quand même, il le fera pas, quoi.
Ben, ça va être dur.
Ça va être dur.
Parce que Tommy Morrison,
c'est pas le... Voilà, on est d'accord. Vas-y, développe. Je te laisse développer, on a la même idée.
C'était le champion prenable, quoi. Ouais. On va dire que c'était le champion le plus prenable à ce moment-là. Donc, ouais, clairement, s'il y avait quelque chose à faire, c'était contre un Tommy Morrison. C'est pas lui manquer de respect, hein, Tommy Morrison, bien sûr. Le dire. Simplement, à ce moment-là, oui, c'est un combattant qu'on a mis dans les conditions pour pouvoir devenir ce new great white hope. Donc, on l'a mis dans les conditions nécessaires pour gagner le titre. Celui qu'on a le plus poussé au-dessus de Tommy Morrison, je pense, alors qu'il n'était pas spécialement méritant, ça va être John Ruiz, qui était moi qui mérite le
toi, ton visage résume tout, on n'a pas besoin d'en dire plus.
Mais sinon, ouais, Tommy Morrison, il était, malgré tout le respect que je peux avoir pour ce boxeur, et pour les boxeurs, il était plus prenant pour former.
Ouais, complètement. C'était le titre WBO, d'ailleurs, le WBO n'était pas encore reconnu dans les fédérations majeures, donc de toute façon, il y aurait eu une petite astérix un petit peu sur cette victoire. Tommy Morrison, il y a des super bios aussi sur le Duke.
Oui, il y a un documentaire, je ne sais plus si c'est Netflix.
Oui, tout à fait, et moi j'avais lu une bio qui s'appelle Duke, je sais plus l'auteur, mais c'est américain, mais pareil, foncé, c'est un personnage, pour le coup, du monde de la boxe. Pendant cette période-là, ce qui renforce encore son côté très populaire, il a son propre show télé sur ABC, la grande chaîne américaine George, produit par Tony Danza. Alors, il n'y aura que 9 épisodes. Tony Danza, c'est Madame et Servie. Je sais que ça nous parle, référence.
Ça nous parle à nous. Hein.
Ouais. En tant qu'ancien, la nouvelle génération, ils vont un peu froncer les sourcils là, en écoutant ça. Je trouve que ces combats-là aussi, ils prouvent que malgré ses 42-44 ans, il est au niveau. Enfin, il est au niveau pour faire ses championnats. On ne sait pas s'il deviendra champion du monde, mais il est au niveau.
En tout cas, il arrive à se mettre au niveau.
Il n'est pas ridicule face à ces mecs-là. Et puis, il monte son menton d'acier parce qu'il en prend. Ouais. Dans les deux combats, il en prend.
Ouais, c'est clair.
Et, notamment Holyfield. Et il est toujours là.
Bien parce que ça efface justement le fait, cette mystique qu'il y avait autour du combat après le Rumble in the Jungle, où c'était un mec qui peut-être qui encaissait pas tant que ça et qui était un petit peu friable mentalement. Donc là, il arrive à faire taire un petit peu ces critiques-là. Ouais.
Et on arrive au 5 novembre 1994 au MGM Grand de Las Vegas. Michael Moorer, le champion WBA et IBF, 19 ans plus jeune que Foreman, 26 ans contre 45 ans pour Big George. Et il va se passer ça.
Great right hand landing for Foreman. He's had a pretty good round here at number 10.
Again, Atlas didn't count the... Atlas, here we go again with the Atlas. Michael Moore is down, goes Moore on a right hand. An unbelievably close in right hand shot. 4, 6, 7, 8, 9, 10. It happened. It happened.
I can't believe it. I can't believe it.
As referee Joe Cortez waved his arms over Moore, George Foreman knelt in prayer in the neutral corner.
You know, this is a 2-1 fight, but in my mind it was a gazillion to one that George Foreman could ever win the heavyweight championship again.
Je t'ai vu sourire, ça, la phrase, je l'ai laissé spécialement pour ça. C'était un combat à 2-1, mais il y avait une gazillion de chances que Moore le batte. Alors, Moore vient de battre Holyfield, décision majoritaire. George, il n'est pas vraiment en position d'être le challenger à ce moment-là, mais il a un nom, c'est lucratif. Je pense que Moore se dit que c'est une victoire peut-être un peu facile. Il est invaincu, Moore.
Son manager.
Le gaucher, le sous-spo. Ouais. Donc, il sent que c'est un peu facile. Et là, il domine les 9 premiers rounds. Son plan se déroule plutôt normal.
Slick, il boxe à distance.
Il outbox tranquillement.
Sans trop de problèmes.
Il est en tête sur les cartes des 3 juges assez facilement.
Ouais.
Et puis arrive ce coup. Vous l'avez entendu, allez voir l'image. C'est ce petit 1-2 avec cette droite qui terrasse Moorer. Et Foreman qui devient champion du monde à 45 ans, le plus vieux champion du monde de l'histoire des lourds. Le commentaire, le hit happened, On parlait de Ward Cosell tout à l'heure et d'Aaron Gordon Frazier, mais le Hit Happen de Jim Lampley, autre grand nom mythique. Des commentateurs de boxe. Pareil, c'est dans le commentaire, c'est tout en haut du panier des commentaires mythiques de boxe.
C'est tout en haut, et puis l'image, elle est vraiment émouvante, hein, parce que tu vois que le chaos arrive et que les commentateurs, ils ont cette émotion. Lampley, en plus, c'est quelqu'un d'assez qui arrive à transmettre ses émotions. Ouais. Moi, j'aimais
et
beaucoup.
Et proche de Foreman, qui va beaucoup commenter sur HBO.
Donc, vraiment, et puis ensuite, l'image avec George Foreman qui se met à genoux dans le coin du ring, mais très sobre dans sa façon de célébrer ce qui l'exploit monumental.
C'est ça, il vient de faire un tremblement de terre sur la planète boxe et il va dans le coin.
Voilà, ça dit tout de la meilleure qualité humaine, c'est l'humilité. Et c'était vraiment une personne tellement humble, Foreman, que lui, il s'est agenouillé parce qu'il voulait remercier, évidemment, il voulait remercier Dieu, il voulait savourer son moment, mais en même temps, en toute humilité. Quoi. Alors que tout autour de lui, c'était la frénésie totale.
Jim Lampley, pour le citer, qui disait, j'ai vu passer aussi, c'est Kyle, Combat Chronicles, qui l'a partagé l'autre jour, qui racontait, je ne l'avais jamais vu ça, ce truc où il racontait une discussion avec Foreman avant le combat. Mm-hmm. Et Foreman lui dit juste, il y aura un moment, à la fin du combat, où il se mettra devant moi et il me permettra de le mettre KO.
Ouais, et bah...
C'est genre juste exactement ce qui s'est passé parce qu'on est au sixième round.
Il a visionné, ouais. Il a
visionné. C'est visionnaire. Et en fait, tu comprends aussi le Hit Happen de Jim Lampley, qui a partagé ces discussions et qui dit mais c'est arrivé là. C'est vraiment arrivé ce qui vient de se passer. Il est alors le plus vieux champion du monde de l'histoire, pas seulement des poids lourds, de la boxe de façon globale. Bernard Hopkins, depuis, l'a battu, mais c'est toujours le cas chez des lourds. Record du plus long intervalle entre un premier et un deuxième titre mondial. Et record du plus grand écart entre un challenger et un champion, je le dis. 19 ans. On est 20 ans et 6 jours après sa défaite contre Ali à Kinshasa. Incroyable. Plus de 21 ans après la prise du titre contre Frazier. D'ailleurs, il porte le même short que contre Ali.
Il a remis son short, ouais.
Le même short qu'à Kinshasa. C'est le plus grand... Je vais aller au-delà de la boxe, Baba. Mm-hmm. C'est le plus grand arc de retour de l'histoire du sport.
Ah, franchement, me mettez pas dans la balance, mec, le Jordan qui revient après le baseball, s'il vous plaît.
tout ce que j'ai vu... j'ai fait un peu de recherche avant ce truc-là. Et tous les retours que tu vois, les timings sont quand même très courts. Tu citais Jordan qui est après le baseball. J'ai vu passer Michael Phelps qui arrête après les JO de Londres et qui revient à Rio reprendre des médailles d'or. Mais il s'arrête 2 ans en fait. C'est quand même une pause. C'est un peu comme Teddy Riner avait fait avant une Olympiade, tu vois, de prendre un peu une petite pause dans sa carrière. 20 ans,
ouais, 20 ans
entre deux titres majeurs.
Dans un sport aussi exigeant, aussi cruel même, j'ai envie de te dire.
C'est le plus grand, Baba. Ouais. C'est le plus grand second arc narratif de l'histoire.
J'accepte volontiers ne avoir un biais, hein, et j'ai pas de problème là-dessus, mais franchement, il va falloir me convaincre qu'il y a eu mieux que ça.
Ali, tu vois, on le rentre moins, Ali, parce qu'il y a quand même beaucoup d'années aussi Ali, entre le premier titre et le deuxième, avec la suspension, l'interdiction de combattre, la guerre au Vietnam, enfin, vous connaissez tous l'histoire. Ali n'est pas si loin, en fait, je pense, avec les circonstances.
Non, il n'est pas loin. La période, elle est plus courte, mais les circonstances sont exceptionnelles.
Mais l'écart, il est dinguissime. Là, c'est même plus le même mec. On le disait, tu le regardes contre Frazier, tu le regardes contre Moore, c'est plus la même personne.
Et puis Ali, on parle d'un boxeur de 26 ans versus un boxeur de 30 ans. Là, Foreman, on parle d'un boxeur de la vingtaine à un boxeur qui a 45 ans. C'est exceptionnel.
C'est une dinguerie, vraiment.
T'es pas censé boxer, en fait, tout simplement. T'es pas censé boxer à cet âge-là.
C'est une des plus belles victoires de l'histoire de la boxe aussi. Tu parlais de celle contre Frazier. C'est moins fort, le nom en face est moins fort et moins mythique, mais c'est une des plus grandes victoires de l'histoire de ce sport.
Il est gigantesque à tel point qu'il a 2 victoires dans le top des meilleures victoires de l'histoire.
C'est là où ça nous titille quand on pointe que Rumble in the Jungle. Ouais. Parce qu'il a 2 des plus grandes victoires de l'histoire de la boxe.
C'est pour ça, il y a des
exploits. Donc oui, il a sans doute la défaite la plus mythique de l'histoire de la boxe. Mais il ne faut pas oublier les deux.
Mais à contrebalancer avec ça, et pour son histoire hollywoodienne, cinématographique, ce que tu veux, c'est parfait qu'il y ait eu ce moment-là. C'est vraiment parfait. Ça peut te rendre qu'heureux en termes de fan de boxe. Tu peux être qu'heureux qu'il ait eu son moment de rédemption comme ça.
C'est marrant, ça m'a tout de suite fait sourire parce que je savais que je pourrais l'utiliser dans l'émission. J'ai eu un échange sur les réseaux avec quelqu'un qui me disait, sous la vidéo que j'avais repostée de ce KO de Moore, et qui me dit, attends, le combat il est arrangé, il tombe trop facilement, il prépare même pas sa droite, il tombe trop facilement. Mais non, mais tu vas voir pourquoi je te le cite, je suis sûr que tu le sais en plus, parce que ça me permet de citer une des phrases de Foreman après le combat.
Ouais.
Parce qu'on l'interroge là-dessus, on lui dit, il y a des gens qui pensent que c'est fixe, et il dit, bien sûr que le combat était arrangé, c'est encore mieux en anglais. Hein. Je l'ai arrangé avec ma main droite. Sure, the fight was fixed, I fixed it with my right hand.
Bah oui.
Génial.
Enfin, écoutez, vous pensez vraiment que Michael Moore, pour combien de millions de dollars, il venait d'être champion du monde des poids lourds? Michael Moore, c'est un combattant qui était monté de catégorie. C'était pas un poids lourd de base.
Ouais.
Il était monté pour devenir champion.
Invaincu, on le rappelle.
Il était un petit peu le gars hype du moment. Vous croyez que ça coûte combien de millions de dollars de laisser son titre comme ça à Foreman.
À part prendre la place sur les barbecues, je vois pas ce que enfin, tu peux lui offrir. Si...
je veux bien non, mais beaucoup c'est... de choses. Je vous demande simplement de réfléchir avant de.
Exactement, réfléchissez et respectez ces athlètes-là. Il n'y a aucun monde où Moore se couche à ce moment-là, comme tu dis, pour. J'espère qu'il n'y a pas assez de chiffres pour non, le faire se coucher à ce moment-là. Mais ça permettait de citer la phrase mythique.
Phrase, je l'avais oublié en plus, donc merci de me le rappeler. Ouais. Voilà,
je l'ai... Oui, oui, je l'ai arrangé avec ma main droite. C'est comme ça que ça s'arrange les combats. On part, c'est la fin de carrière, mais on évoque rapidement, Baba, on parle quand même alors d'un possible choc contre Tyson.
Ouais.
Et ça me fait sourire parce qu'il refuse parce qu'il ne veut plus traiter avec Don King.
Exactement.
Notamment après ce qui s'est passé dans les années 70. Et c'est un des tweets qui m'a fait le plus vibrer que j'ai vu passer ces derniers jours, que j'avais partagé.
Ouais.
On a perdu Ali, on a perdu Foreman, on a perdu Frazier.
J'ai vu passer ce tweet.
Et Don King,
il m'a bien fait chier.
Et Don King et Bob Arum, qui ont en fait exploité ces mecs-là, qui ont exploité leur capacité physique pour se faire de l'argent sur leur dos. Alors, ils faisaient promoteurs, donc ils faisaient leur job aussi, mais c'est eux qui ont rapporté l'argent. Bah, eux, ils sont toujours vivants.
Ouais. J'ai vu ce tweet.
Je souhaite à personne qui continue autant à vivre autant qu'ils veulent et le plus longtemps possible.
Il m'a remué parce que.
Mais la vie, elle est cruelle.
Voilà. C'est un truc qui m'a réellement. Qui m'a chamboulé parce que, voilà, de par ma croyance et par mes convictions personnelles, je souhaite réellement la mort à personne.
Non, voilà, c'est clair. C'est pas du tout ce qu'on veut dire, qu'on nous accuse pas de ça.
Non, pas du tout. Mais tu peux que lire le tweet une fois, deux fois, trois fois. Et tu peux juste dire merde, quoi.
Oui, la vie est mal faite.
C'est comme ça.
La vie est injuste. Ils ont pris moins de coups dans la tête aussi. Donc, il y a des conséquences moindres. Mais voilà. Parenthèse fermée. Donc, ce combat contre Tyson s'évapore. La WBA, il veut qu'il affronte Tony Tucker, qui est son challenger numéro 1. Il refuse. On lui enlève la ceinture. Il va affronter Axel Schultz pour la ceinture IBF. Ça se finit en décision majoritaire un peu controversée. Certains voient Schultz être imposé. Donc, l'IBF veut une revanche immédiate. En Allemagne, il refuse, on lui retire sa ceinture, donc il n'est plus champion. C'est comme ça qu'il perd ses titres. Il ne les perd pas dans le ring, en fait, ces titres. C'est ça qui est intéressant aussi. Il n'y aura plus que trois combats derrière. Le dernier contre Shannon Briggs en novembre 1997, à 48 ans et 316 jours. Baba, 28 ans et quelques mois après ses débuts professionnels.
Exactement. Et en plus, il aura dû se retirer sur une victoire.
Oui. Ce combat-là, il l'a gagné.
En plus, mais les pouvoirs en place n'avaient certainement plus envie d'un champion de 48 ans face à un jeune loup qui devait ensuite affronter des Lennox Lewis. Donc, ils avaient plus trop envie de ça. C'était gentil au début, mais bon, à un moment, il fallait que ça s'arrête. Donc voilà, on a mis Briggs vainqueur et puis Foreman, il a décidé qu'il était temps que la belle histoire s'arrête.
On a failli le revoir deux ans plus tard. Il y a eu dans les plans un pay-per-view contre Larry Holmes pour un combat d'ancien, donc il aurait eu 50 ans à ce moment-là, c'était en 99 finalement, les négociations sont tombées à la... Je suis pas mécontent qu'on l'ait pas vu.
Oui, c'est mieux, ça y est. Une fois que l'histoire est belle, il faut savoir s'arrêter aussi pour qu'elle reste belle.
Exactement. On a pas besoin, en fait, de ça. Il sera aussi commentateur, on l'a dit tout à l'heure, il y a sa relation avec Jim Lampley, elle vient de là, parce que pendant longtemps, pour HBO, et je voulais citer ça pour citer l'anecdote de Riddick Bowe contre Andrew Golota. Oui, donc il y a une émeute, ça, si vous ne connaissez pas l'histoire, on est en juillet 96 au Madison Square Garden et le combat se finit en disqualification puisque Golota,
il n'est pas venu pour faire de la boxe.
Voilà, fait n'importe quoi et balance que des coups bas et dans les parties du Riddick Bowe, dont forcément le coin n'aime pas ce qui se passe et une fois qu'il y a la disqualification, le coin de Bowe rentre dans le ring et commence à attaquer Golota et son coin. Ça part en émeute dans le ring, mais aussi en dehors du ring avec des supporters des deux camps et donc il y a les commentateurs au bord du ring dont George Foreman et Jim Lampley et certains du public arrivent vers le pour plus ou moins agresser en fait les commentateurs d'HBO. Il y a cette phrase, on le voit même pas à l'écran, on entend juste la voix de Foreman qui dit "Don't do it, son." Ne fais pas ça, fils. Et tu sens donc il s'est mis devant le mec et que là le mec en face a dû se dire bon, entre mon idée d'aller un peu faire chier les mecs d'HBO et de se dire que pendant 30 secondes, je vais devoir affronter la droite de George Foreman, j'ai choisi, je laisse tranquille HBO.
Il y a eu un retour à la réalité, tout simplement. L'euphorie, il l'a pris, et puis ensuite, quand il a vu Foreman, il s'est rappelé.
Mais c'est, voilà, même en tant que commentateur, il a laissé un moment mythique de l'histoire de la boxe, Baba.
Ouais, c'est vrai. C'est, encore une fois, c'est toute cette histoire autour de lui, et toute cette mystique qui a continué à s'écrire.
Trois petites réflexions et on va avoir fini pour cet épisode hommage. Je trouve qu'on a bien fait le tour, Baba. Je te laisserai aussi, si tu as des choses à rajouter. Il y a eu un truc cool, c'est qu'il a toujours montré de l'amour pour la nouvelle génération.
Ouais.
C'est pas toujours le cas des anciens boxeurs. Parfois, il y en a des aigris qui disent toujours le côté « c'était mieux avant
».
Lui, il a été même « c'était trop » parfois. Pareil, j'ai vu passer Tu l'as vu aussi Il avait dit que David Haye était trop rapide pour lui.
Bon. Non, c'est gentil.
Ça va un peu trop loin, parfois dans le respect, mais c'est cool de voir ça. Oui. C'est cool de voir que, tu vois, malgré ta carrière comme ça, t'es pas aigri en mode « de toute façon, ceux qui arrivent derrière sont moins bons que nous ».
Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentateurs, surtout sur HBO, notamment Showtime aussi, où tu sentais ces boxeurs-là qui voulaient à tout prix faire valoir leurs exploits. Au-delà des autres, on le voit aussi en MMA, on le voit aussi à l'UFC notamment, où tu as beaucoup de commentateurs qui sont d'anciens combattants et qui, pour expliquer un combat, vont se mettre en avant eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose personnellement que je déteste et qu'on préserve de faire un truc comme ça un jour. Lui, ouais, c'était toujours la bienveillance. Alors des fois, oui, ça pouvait être un peu surjoué.
Ouais, c'est ça, t'as l'impression qu'un peu...
Mais oui,
j'ai très bien quelque fait. Chose me dit qu'au fond de lui-même, il n'y croit pas trop pour David Haye.
Non, je pense que Foreman était très conscient de ce qu'il savait faire aussi.
Voilà, quand même, il sait qui il est aussi. Hein. Et le dernier point, moi, c'est, ça concerne un peu plus ma corporation, mais tous les journalistes qui racontent à quel point il était dispo après sa carrière, pendant sa carrière aussi, notamment la deuxième partie, mais après sa carrière, Bryn Jonathan Butler, que ça me permet de le citer, un superbe auteur et qui travaille parfois pour The Ring, quand il a préparé son bouquin, sur le Cuba, Domino's Diaries, je vous le conseille, c'est un bijou absolu, et qui voulait parler de Théophile Stevenson, le combat mythique contre Ali qui n'est jamais arrivé, et il dit, il me rappelle dans les 5 minutes, passe à la maison à Houston, viens, on prend du temps pour parler de ça. Enfin, un homme avec un grand cœur, Baba, au-delà du combattant, vraiment.
Ouais, encore une fois, c'est pas un personnage joué, tout simplement. Il jouait pas un rôle, c'était lui-même, et puis c'est vraiment génial qu'il ait pu être lui-même dans le ring et en dehors pour cette... toute une grosse partie de sa vie et qu'il ait réussi à faire oublier ce qui s'était passé avant.
T'as un truc à rajouter ? Un point que tu voulais rajouter sur Foreman ?
Je pense qu'on a été complet, encore une fois, qu'on a retranscrit...
ça méritait ça.
Voilà, un décès qui touche les fans de la boxe, qui touche les fans de cette culture. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien pour la boxe, quelqu'un qui a montré qu'on n'était pas juste des brutes qui ne pensent pas, qui a montré qu'on était capable aussi d'avoir plusieurs âges, d'avoir plusieurs... carrières différentes et d'avoir tout un arc de rédemption qui soit pas surjoué. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous vendre des rédemptions un peu surjouées, tu vois, le mec... Non, là, tu vois, c'est... on a fait beaucoup plus de la rédemption d'autres boxeurs, de Mike Tyson, par exemple, qui a fait des choses extrêmement répréhensibles. Et Foreman, on l'a beaucoup enterré, alors que son tort, c'était d'avoir une défaite qui est mythique, tout simplement, en fait.
Exactement.
Donc je suis heureux qu'il ait pu montrer aux choses.
Dingue, comme le seul chaos qu'il a pris dans sa carrière l'a défini pour beaucoup de choses.
Ouais,
c'est quand même. Mais oui, personnage absolument mythique. Et on va finir sur la question. Sa place, Baba. Champion du monde à 20 ans d'écart. Deux des plus grosses aires de l'histoire des Ours. T'as battu Frazier invaincu deux fois d'ailleurs. Enfin, mais il n'était plus invaincu la deuxième. Michael Moore invaincu pour le faire. Top 5 facile de l'histoire des lourds.
Ouais, top 5, top 10. Après, il y a beaucoup d'excellents combattants poids lourds, ça c'est clair.
Ouais, ouais, Joe Louis, Sally, Larry Holmes, Marciano, Frazier, Holyfield, Dempsey.
Voilà, c'est on ça. Top 10, on se trompe pas. Et je dirais juste dans le tiers des légendes. C'est tout. Ouais. Dans l'ère très rare des légendes.
Exactement. Ultra légende, et moi je pense qu'il rentre. Soit il gratte le top 5, soit il est 6, mais il est 5 ou 6, quelque chose comme ça. Quand je regardais, il était à peu près dans ces eaux-là. Et si tu me le mets 4, je ne discute pas avec toi. Du tout. Voire même sur le podium derrière Luis et Ali. Je pense que Luis et Ali, c'est un touchable en haut. Derrière, c'est un peu ouvert et tu me le mets 3, j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Merci beaucoup, Baba. C'était important de faire ça et de rappeler à tout le monde qui était Big George, George Foreman, et repose en paix. Les gens, il n'y en a plus beaucoup. Des bêtes mythiques de la boxe comme ça, encore vivantes, il n'y en a plus beaucoup. On a perdu un des derniers, vraiment. Avec toute cette dimension globale, il était dans les derniers totems. Merci beaucoup à tous, abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau numéro du Fighter Club. Salut mon Baba, salut à tous, ciao.
RMC Fighters Club.